إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, nous continuons de voir dans cette série de cours certaines provisions utiles à l'adorateur. Et comme vous le voyez, ces provisions sont multiples et variées. Et ceci fait partie de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa miséricorde envers ses serviteurs. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré pour nous différentes sortes d'adorations qui sont toutes dans notre intérêt et qui nous permettent de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'obtenir de nombreuses récompenses et mérites que renferment ces adorations. Et parmi ces adorations, il y a les ablutions qui font partie des conditions de la prière. C'est-à-dire que celui qui veut prier, il est alors obligatoire pour lui de se purifier de deux choses. L'impureté majeure, comme la janaba, les menstrues et les lochis, et ce, en faisant le ghusl, le grand lavage, et l'impureté mineure, comme le fait d'avoir fait ses besoins, et ce, en faisant les ablutions. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné cela dans son livre. Et il a dit subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuha alladhina amanu, idha kumtum ila salah, faghsilu wujuhakum, wa aydiyakum ila al-marafiq, wamsahu bi ru'usikum, wa arjulakum ila al-ka'bayn, wa in kuntum junuban, fattahharu, wa in kuntum marda'u ala safarin aw jaa'a ahadun minkum min al-ghaa'it, aw lamastumu an-nisaa'. فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Ô vous qui croyez, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages, puis vos mains jusqu'aux coudes, puis passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Et si vous êtes en état de janaba, alors purifiez-vous, c'est-à-dire par les grandes ablutions. Mais si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché aux femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à la terre pure. Passez-en sur vos visages et vos mains. Allah ne veut vous imposer aucune gêne, mais il veut vous purifier et parfaire sur vous son bienfait. Peut-être serez-vous reconnaissant. On retrouve donc dans ce verset, qui est le verset 6 de Sourate Al-Ma'ida, les obligations des ablutions, qui sont au nombre de 6. La première est de se laver le visage entièrement, et entre dans cela le fait de se rincer la bouche et le nez, car elles font partie du visage. La deuxième est de se laver les mains jusqu'aux coudes, et ceci après s'être lavé le visage. Et on voit à travers cela l'erreur de beaucoup de personnes qui, après s'être lavé le visage, ne se lavent pas les mains, mais se lavent simplement l'avant-bras, du poignet jusqu'au coude. Et ceci est une grave erreur. Et cette erreur, elle provient du fait que nombre de personnes pensent que le premier lavage de main, celui par lequel on commence les ablutions, est suffisant. Or, celui-ci n'est qu'un lavage recommandé. Le premier lavage que tu fais lorsque tu commences tes ablutions, c'est un lavage qui est recommandé, qui ne fait pas partie des obligations des ablutions. Mais l'obligation, c'est de te laver les mains jusqu'au coude après t'être lavé le visage. La troisième obligation et de s'essuyer la tête entièrement avec les mains mouillées, et essuyer les oreilles, car elles font partie de la tête. La quatrième obligation est de se laver les pieds jusqu'aux chevilles. La cinquième obligation est de faire cela dans l'ordre qui est mentionné dans le verset, comme on vient de le dire. Le visage, qui comprend le rinçage de la bouche et du nez, les mains jusqu'aux coudes, le fait de s'essuyer la tête et d'essuyer les oreilles, puis les pieds jusqu'aux chevilles. Et la sixième obligation et de faire cela de façon continue, c'est-à-dire sans qu'il y ait une grande interruption entre le lavage de tes membres. Ceci sont donc les 6 obligations des ablutions. Et il est légiféré de dire Bismillah avant de commencer. Et la sunna est de commencer par laver ses mains 3 fois, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on a dit, ce lavage qui est un lavage recommandé. Et également, la sunna est de commencer par la droite, et de tout faire à 3 reprises, à l'exception de la tête, que tu ne dois essuyer qu'une fois. Et il y a également d'autres choses qui sont recommandées et légiférées au sujet des ablutions, mais ceci n'est pas le sujet de notre cours. J'ai simplement voulu ici rappeler les obligations de celles-ci, car ceci est un point fondamental que nul n'est censé ignorer. Mais le sujet de notre cours ici, c'est le mérite des ablutions. On voit dans le verset que ce qui est recherché par les ablutions, c'est notre purification. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans celui-ci, selon le sens rapproché, Allah ne veut vous imposer aucune gêne, mais il veut vous purifier. C'est-à-dire d'une purification morale en plus de cette purification physique. Car la purification, elle ne se limite pas au fait de se laver le corps et de le purifier des souillures. Mais la purification avant tout, c'est que tu te purifies intérieurement, que tu te purifies de toute impureté. Et la plus grande des impuretés est le polythéisme. Donc il t'incombe, avant toute chose, de purifier ton cœur de toute forme de polythéisme majeur ou mineur. Et que ton culte ne soit voué qu'à Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que tu ne recherches rien d'autre à travers tes adorations, si ce n'est la satisfaction et la récompense d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ces ablutions, elles sont aussi pour toi un moyen de te purifier de tes péchés. Et ce, si tu t'appliques dans celles-ci et que tu les accomplis comme il se doit. L'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, rapporte à ce sujet trois hadiths qui sont des hadiths immenses. Le premier est le rapport de Uthman ibn Affan, radiyallahu ta'ala anhu. Et dans celui-ci, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui parfait ses ablutions, c'est-à-dire qu'il les accomplit de manière complète, comme il se doit. Alors ses péchés sortiront de son corps jusqu'à sortir de sous ses ongles. » Et dans le second hadith, il est rapporté que Uthman, radiyallahu anhu, a fait ses ablutions, puis a dit aux gens qui étaient présents, « J'ai vu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, faire ses ablutions comme je viens de les faire. » Puis il a dit, « Celui qui fait ses ablutions de cette manière, ses péchés passés lui seront pardonnés. » Et le troisième hadith, toujours rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, qui rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Lorsque le serviteur musulman, ou le serviteur croyant, fait ses ablutions et lave son visage, tout péché qu'il a commis avec ses yeux sort de son visage avec l'eau, ou avec la dernière goutte d'eau. Lorsqu'il se lave les mains, tout péché commis avec ses mains sort de celle-ci avec l'eau, ou avec la dernière goutte d'eau. Lorsqu'il se lave les pieds, tout péché vers lequel il a marché est effacé avec l'eau, ou avec la dernière goutte d'eau. Ainsi, lorsqu'il termine, il est purifié des péchés. » On voit donc à travers ces hadiths ce mérite immense qu'il y a dans les ablutions. Et quelles sont une cause pour que tu te purifies de tes péchés? Lorsque tu fais tes ablutions, il te convient de t'appliquer afin de tirer profit de ce mérite. Mais il convient aussi que tu aies conscience de cela et que tu espères cette récompense et cette purification de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il te convient également que tu te réjouisses de te soumettre à cet ordre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui, comme on a dit, est dans ton propre intérêt. Car on a déjà mentionné dans des cours précédents que le fait que tu obéisses à Allah, subhanahu wa ta'ala, ou non, que tu fasses des péchés ou non, que tu sois croyant ou mécréant, cela ne diminue en rien de la royauté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais tous ces actes que tu accomplis pour te rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ils sont dans ton propre intérêt. Et parmi ceux-ci, les ablutions, qui, si tu les accomplis correctement, alors Allah, subhanahu wa ta'ala, te fait grâce de son pardon en te purifiant de tes péchés. Toutefois, il est important de souligner que ce qui est visé ici, ce sont les petits péchés. Et pour profiter de cette expiation, il t'incombe de t'écarter et de te repentir des grands péchés. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre « In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an, nukaffir ankum sayyi'atikum. » Si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, nous effacerons vos mauvaises actions, c'est-à-dire vos petits péchés. Donc on voit que le fait de s'écarter et de se repentir des grands péchés, c'est une condition pour profiter des expiations qui sont mentionnées dans les différents hadiths concernant les ablutions, concernant le jeûne, concernant la prière, et ainsi de suite. Si tu souhaites profiter de ces expiations, si tu souhaites au moment de tes ablutions qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'expie tes mauvaises actions, que tes petits péchés te soient pardonnés, alors il t'incombe de t'écarter des grands péchés. Et tu ne dois pas persister et t'entêter dans le fait de commettre un grand péché. Mais s'il t'arrive de faire un faux pas, de laisser aller ta langue, ou de commettre autre parmi les grands péchés qui nous sont interdits, alors ce qui t'incombe, c'est de t'empresser de te repentir et de ne pas persister sur cela. Mais tu te repens à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu cesses immédiatement ce péché, tu le regrettes et tu prends la ferme volonté, la ferme décision de ne plus y retourner. Et si tu fais cela, alors Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne ton péché. Et tu profiteras ainsi de ces expiations qui sont mentionnées dans ces hadiths. Quoi qu'il en soit, tu vois à travers cela le grand bien qu'il y a dans le fait de faire les ablutions. Et notamment en s'appliquant cela. C'est-à-dire que tu dois t'appliquer dans tes ablutions. Ne pas les négliger. Ne pas les accomplir de manière incomplète ou de manière imparfaite. Mais tu t'appliques en celle-ci. Même lorsque cela est contraignant. Comme en hiver, par exemple. En effet, les ablutions qui sont accomplies en hiver ou en été ne sont pas pareilles. En été, la personne, elle prend plaisir à faire ses ablutions car cela la rafraîchit. Alors qu'en hiver, cela est plus contraignant. Et c'est à ce sujet que l'imam muslim, rahimahullah ta'ala, a rapporté d'après Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: « Voulez-vous que je vous indique ce par quoi Allah efface les péchés et vous élève en degré? » Un mérite en plus. L'effacement des péchés, mais aussi le fait d'être élevé en degré. Ils répondirent oui au messager d'Allah. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur mentionna plusieurs actions et parmi celles-ci, il commença par dire « Accomplir parfaitement les ablutions lorsque cela est contraignant. » Lorsque cela est contraignant, comme en hiver, lorsqu'il fait froid, il se peut que la personne ressente une certaine difficulté dans le fait de mouiller ses membres en faisant les ablutions. Et sache qu'il y a une grande récompense en cela. Cela t'efface les péchés et cela t'élève en degré, bi'idhnillahi ta'ala. Parmi les mérites des ablutions également, il y a le fait qu'elles seront source de lumière sur tes membres au jour de la résurrection. Les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala rapportent d'après Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les gens de ma communauté seront appelés au jour de la résurrection, alors que leurs visages, leurs mains et leurs pieds seront illuminés en conséquence des ablutions. Et il rapporte aussi qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'aurais souhaité voir mes frères. Alors les compagnons lui dirent: ne sommes-nous pas tes frères, ô messager d'Allah? Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, vous, vous êtes mes compagnons. Et mes frères sont ceux qui ne sont pas encore venus. C'est-à-dire ceux qui vont croire au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et qui vont venir après lui. Ils lui demandèrent alors comment il pourrait les reconnaître. C'est-à-dire, comment va-t-il les reconnaître au jour de la résurrection, au milieu des innombrables créatures? Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, voyez-vous, si un homme possède des chevaux marqués de blanc sur le front et sur les pattes, et que ceux-ci se trouvent au milieu d'un troupeau de chevaux entièrement noirs, ne va-t-il pas les reconnaître? Alors les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ils répondirent: bien sûr que si. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit alors: il en est de même. Ils viendront au jour de la résurrection, alors que leurs visages, leurs mains et leurs pieds seront illuminés en conséquence des ablutions. Tu vois donc qu'il y a dans ces ablutions un mérite immense. Et l'imam muslim, rahimahullah ta'ala, rapporte aussi d'après Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: la parure du croyant atteindra ce qu'ont atteint les ablutions. La parure du croyant atteindra ce qu'ont atteint les ablutions. En effet, au paradis, les croyants et les croyantes seront couverts d'une parure. Et celle-ci atteindra ce qu'ont atteint tes ablutions. Donc ceci t'encourage à être assidu dans les ablutions et à ne pas les négliger pour ses nombreux mérites que celles-ci comportent. Également parmi les mérites des ablutions, il y a le fait qu'elles peuvent être pour toi une cause d'entrée au paradis. Et ce, si tu les accomplis parfaitement et que tu prononces après celles-ci la formule de rappel qui est légiférée. L'imam muslim, rahimahullah ta'ala, rapporte d'après Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a personne parmi vous qui fait ses ablutions et s'applique afin de les faire parfaitement, puis dit: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. J'atteste qu'il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré, sauf Allah, seul sans associé. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager. S'il fait ses ablutions, qu'il s'applique et prononce cette attestation, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a personne qui fait cela sans que les 8 portes du paradis lui soient ouvertes et qu'il puisse y entrer par celle de son choix. Allahu Akbar. Garde le mérite immense qu'il y a dans ces ablutions. Ces ablutions que beaucoup d'entre nous font de manière mécanique sans se rendre compte du grand mérite qu'elles comportent. Donc lorsque tu les accomplis, tu dois prendre conscience qu'en faisant cela, tu te soumets à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'il y a en cela une grande récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu t'appliques dans celle-ci. Et après, tu prononces cette attestation immense. Ash'hadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. J'atteste qu'il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré sauf Allah, seul sans associé. C'est-à-dire que tu rejettes l'adoration de tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que tu affirmes que l'adoration est un droit exclusif d'Allah. Donc, tu ne pries que pour Allah, tu n'invoques qu'Allah, tu n'as peur que d'Allah, tu n'as de l'espoir qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi de suite parmi les différentes adorations qui sont toutes réservées à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite tu attestes que Muhammad est son serviteur et messager. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. C'est son serviteur, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est un homme et il fait partie des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a donc pas de droit à l'adoration. Et c'est son messager, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que tu lui dois obéissance. Tu te dois d'accomplir ce qu'il a ordonné, t'écarter de ce qu'il a interdit, croire en tout ce dont il a informé, et n'adorer Allah subhanahu wa ta'ala que de la manière qu'il a légiféré. Et ceci est ce qui est impliqué par ces deux attestations. Donc si tu prononces cette parole, après tes ablutions, les 8 portes du paradis te sont ouvertes. Et tu pourras y entrer par celle de ton choix. Tu vois donc que c'est un mérite qui n'est pas à négliger. Et également, parmi les formules de rappel qui sont légiférées à prononcer après les ablutions, il y a le fait de dire après cette attestation ce qu'a rapporté l'imam At-Tirmidhi rahimahullah ta'ala. Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. Ô Allah, place-moi parmi tes serviteurs repentants et place-moi parmi ceux qui se purifient. Et il est aussi légiféré de dire Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Que tu sois purifié, ô Allah, et à toi les louanges, j'atteste qu'il n'y a de Dieu en droit d'être adoré que toi, j'implore ton pardon et je me repens à toi. Ceci sont donc les différentes formules de rappel qui sont légiférées de prononcer après les ablutions. Enfin, parmi les mérites des ablutions, il y a aussi ce que tu peux obtenir en les accomplissant continuellement, c'est-à-dire en les renouvelant une fois que tu les perds, et en les faisant suivre de deux unités de prière. En effet, Al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala rapportent d'après Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Bilal radiyallahu anhu au moment de la prière du Fajr. Ô Bilal, Bilal le muaddin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un noble compagnon, informe-moi au sujet de l'œuvre que tu accomplis en islam et de laquelle tu espères le plus, c'est-à-dire tu espères le plus de récompense. Car j'ai écouté le son de tes chaussures devant moi au paradis. Subhanallah. Alors Bilal radiyallahu ta'ala anhu lui répondit, il n'y a pas une œuvre dans laquelle j'espère le plus, c'est-à-dire de récompense, si ce n'est le fait que je ne me purifie jamais, que ce soit le jour ou la nuit, si ce n'est en faisant suivre cette purification de ce que je peux comme prière. C'est-à-dire qu'il fait suivre ses ablutions de deux unités de prière, radiyallahu ta'ala anhu. Et dans une autre narration, rapportée par At-Tirmidhi rahimahullah, et authentifié par l'imam Al-Albani rahimahullah, Bilal radiyallahu ta'ala anhu a dit « Je ne fais jamais l'adhan sans prier après celui-ci, rak'atayn, deux unités de prière. Et je ne perds pas mes ablutions sans les renouveler immédiatement. Et j'accomplis pour Allah, après cela, deux unités de prière. » Donc on voit à travers ce hadith qu'il est recommandé pour le musulman d'être sans cesse en état de purification. C'est-à-dire que lorsque tu perds les ablutions, il est recommandé pour toi, et ce n'est pas une obligation, que tu les renouvelles immédiatement. Par exemple, lorsque tu vas faire tes besoins, tu renouvelles immédiatement tes ablutions. Et tu n'attends pas la prochaine prière, mais tu les renouvelles systématiquement. Et ceci fait partie des moyens d'entrer au paradis. Également, on voit à travers cela qu'il est recommandé d'accomplir 2 unités de prière après chaque ablution. Cela fait partie des prières recommandées que nous n'avons pas mentionnées hier. Donc ces 2 unités, elles sont recommandées après que tu aies fait tes ablutions. Et leur mérite, c'est qu'elles sont un moyen d'entrer au paradis. Tu vois donc à travers cela qu'il y a un grand mérite dans le fait d'accomplir parfaitement ses ablutions, de s'appliquer en celles-ci, en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces ablutions, elles peuvent être la cause pour te faire pardonner tes péchés. Elles peuvent être la cause pour t'élever en degré. Elles peuvent être la cause pour que tu entres au paradis, bi'idhnillahi ta'ala. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous placer parmi ses serviteurs repentants et parmi ses serviteurs qui se purifient. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.